Donc, cet après-midi, nous allons nous pencher davantage sur le rôle et les fonctions des bibliothèques en recevant d'une part Frédéric, alors de, comme ça, Frédéric Sabi qui est directeur du SICD Grenoble 2, Florence Roche qui officie au SICD Grenoble 2, une des nombreuses adjointes de Frédéric, et Nadine Delcarmine qui est une des nombreuses adjointes de Frédéric, également au SICD Grenoble 2. Pourquoi ces trois-là? D'une part, parce qu'ils ont, ils ont écrit à plusieurs mains, et en fait, il aurait pu y avoir également Alain Fernec, Odile Nguyen et Christophe Evans. On aurait pu inviter tous les contributeurs. Cet ouvrage qui s'appelle L'avenir des bibliothèques, l'exemple des bibliothèques universitaires, et qui, vous allez faire une présentation brève, mais qui en gros fait le point sur l'usage des bibliothèques et de la lecture aujourd'hui et qui conclut par que deviennent les métiers des bibliothécaires dans les configurations actuelles, alors qui sont liées par certes le bouleversement du numérique, mais pas seulement le bouleversement des usages. J'ai fait hier mention de la contribution d'Alain Fernex, le bouleversement de nos établissements, les collections, les publics, et puis des statuts des personnels. Donc, je ne sais pas qui commence, Frédéric, Florence?
Non.
Florence.
Oui, je vais commencer.
Ah, c'est bien
dit. Et puis, mes voisins compléteront. Alors, on va commencer, par, si vous voulez, par une présentation relativement générale et succincte de ce livre pour que vous sachiez un petit peu ce sur quoi on a voulu en particulier réfléchir et apporter, si ce n'est des réponses, au moins des éléments pour alimenter le débat. La question principale, finalement, qui nous a occupé pendant toutes ces années de rédaction, et qui est somme toute assez ambitieuse, était de savoir quelle valeur ajoutée la bibliothèque peut apporter de nos jours à l'université. Et pour cela, on est reparti d'un rapport finalement assez ancien qui a été rédigé en 1998 par le sénateur Lacheneau, qui portait un titre tout à fait intéressant, « Bibliothèque universitaire, le temps des mutations ». Et dans ce rapport, assez détaillé et très intéressant vraiment sur l'état des bibliothèques universitaires, il était écrit de manière très, très claire que les universités devaient renforcer la politique documentaire de leurs établissements pour constituer des pôles d'excellence universitaire. Et donc on voyait très bien se dessiner ce lien entre l'excellence d'une politique documentaire d'une bibliothèque et l'excellence de l'université qui abrite cette bibliothèque. Alors ce rapport donc remonte à 1998, ça signifie qu'on est aujourd'hui 13 ans plus tard. Alors première question, est-ce qu'on peut encore espérer porter ce discours-là aujourd'hui? Et seconde question, est-ce que nos tutelles universitaires elles-mêmes sont prêtes aussi à assumer, à porter ce discours-là dans une période où finalement les universités subissent des mutations assez profondes et où les bibliothèques universitaires elles aussi connaissent des mutations importantes et en tous les cas donnent toutes les apparences d'une certaine forme de concurrence qui est en train de s'instaurer avec notamment tous les usages de la documentation numérique, celles qu'elles acquièrent, mais aussi celles qu'on trouve par le biais d'Internet. Et au moment aussi où un certain nombre de présidents d'universités, et on en a connu à Grenoble, finalement se pose même la question de l'avenir du lieu de bibliothèque et tout court de la validité d'une structure documentaire dans une université. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la toile de fond. Et à partir de là, on est reparti vraiment de l'analyse du terrain, à savoir, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans les bibliothèques et quelles sont les tendances qui traversent les bibliothèques aujourd'hui. Alors, on en a listé un certain nombre qui sont relativement évidentes pour les bibliothécaires que vous êtes, hein, mais encore faut-il les rappeler pour les avoir en tête. Bon, tout d'abord, l'évolution des formes de la documentation. Aujourd'hui, on accède de plus en plus à la documentation à distance et donc on n'est plus obligé de rentrer dans un lieu physique de bibliothèque pour avoir cet accès à la documentation. Ensuite, l'évolution des pratiques de recherche des étudiants. Aujourd'hui, dans les universités, dans les maquettes d'enseignement, on parle beaucoup de compétences. Est-ce qu'avec toutes ces compétences, on arrive à reconstituer un savoir ? Il y a là un pas qui n'est pas si aisé à franchir. Et aujourd'hui, ce qu'on voit bien dans les usages de nos étudiants, c'est que ces usages se situent beaucoup plus dans le champ de l'information et de la connaissance que dans celui du savoir véritablement. Donc ça, c'est assez lourd de conséquences sur beaucoup d'éléments de politique dans la bibliothèque. L'évolution de la sociologie des publics, ça aussi, ça compte. Des publics qui sont beaucoup plus hétérogènes que dans les années 60, quand la massification estudiantine a commencé à se faire sentir. Ce qui suppose aussi une adaptation de la part des bibliothèques. Et enfin, une évolution de l'université elle-même. LRU, passage aux compétences élargies, tout cela, ça a modifié aussi la relation que l'université peut avoir avec sa bibliothèque. Ça rend plus clair, quelque part, les options, les choix qui sont faits par les bibliothèques universitaires, et ça amène la bibliothèque à rendre son action à la fois plus visible et aussi être plus redevable de cette action. Voilà, donc tout ceci finalement amène les bibliothécaires à envisager autrement la relation au public et à créer un lien nouveau, différent de celui qui existait jusque-là. D'abord, ce public, il n'est plus captif. Hein. Traditionnellement, on avait l'habitude de séparer le public non captif des bibliothèques de lecture publique du public captif de la lecture universitaire. Aujourd'hui, ça n'est plus comme ça que ça fonctionne. Les normes et les usages des étudiants ont changé. Et aujourd'hui, l'intérêt que présente pour eux la bibliothèque, ça n'est plus qu'un intérêt strictement documentaire, un intérêt lié aux collections. Et par conséquent, il faut que les bibliothécaires investissent aussi un autre terrain que celui des collections. Voilà, donc la thèse qui est défendue, bon, finalement, dans cet ouvrage, en faisant très court, hein, c'est un résumé que je vous livre là, c'est malgré tout une thèse optimiste, hein, c'est-à-dire que il y a un véritable avenir possible pour la bibliothèque, et notamment si on défend la place de la bibliothèque en tant que lieu physique, et un lieu où se crée un certain nombre d'interactions, un lieu où on développe des services, et que l'avenir des bibliothécaires repose aussi sur leur capacité à recréer ce lien nouveau dont je parlais tout à l'heure, à accepter de ne plus voir leur bibliothèque que comme un réservoir de documents, un lieu où l'on abrite des collections. Et donc tout cela les amènera aussi, c'est effectivement le dernier chapitre de l'ouvrage qui en parle, donc quitter le terrain de la stricte sélection des documents, voilà, de la sélection et du traitement technique. Donc on voit bien que là, on est quand même dans une forme de rupture quasi séculaire, hein, avec les représentations du métier de bibliothécaire. On est aussi amené de plus en plus à se rapprocher de notre public en étant plus réactif par rapport à ses usages. Et une grande partie également de l'ouvrage repose sur la nécessité d'augmenter vraiment nos compétences et notre savoir-faire en matière de technique d'enquête, en matière de politique d'évaluation. Nadine Dalcarmine a fait un très long chapitre sur ce sujet-là, très détaillé. En matière de connaissance et d'évaluation des usages. Et ceci est vraiment un point important pour arriver à recréer ce fameux lien qui aujourd'hui nous paraît en fait menacé. Hein. Y a un vrai risque de rupture entre les bibliothèques et leur public. Et c'est ce qu'on a voulu donc à la fois analyser et aussi et sur lequel on essaye aussi proposer des solutions.
Alors, je voudrais que cette discussion, qui peut bien sûr avoir lieu aussi avec vous, soit un peu en deux ou trois temps. Je ne sais pas comment je vais découper ça. Le premier, sur un constat. Je reprends, parce qu'on en a parlé hier, encore une fois, hein, le constat des collections d'une certaine désaffection des étudiants pour les collections des bibliothèques et pour leurs bibliothèques et pour la lecture en particulier, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est entre autres ce que développe Alain Fernex, et même si vous pouvez quand même un peu en parler à sa place, je pense. Il me semble que c'est quand même une sorte de préalable. Hier, au cours de la discussion avec les libraires, on a évoqué la question du présentisme. Aujourd'hui, quelle épaisseur historique, sociologique, philosophique sur le passé, qui va donc d'une certaine façon sans doute éclairer un peu l'avenir, ces étudiants portent-ils? Et je reviens là-dessus à une anecdote que tu nous avais donnée, Frédéric. Je pense que tu t'en souviens, des étudiants le 10 novembre devant la bibliothèque universitaire se disant « Tiens, demain c'est fermé, je ne comprends pas pourquoi. » Et alors l'autre disant « Oh ben je sais pas, ils doivent être en grève. » C'était ça.
Oui, c'est ça. Et donc, le premier lui a répondu « Ah non, ils ne sont pas en grève. C'est le jeudi de l'Ascension. »
Donc, c'est symptomatique d'une... c'était pas tombé statistiquement sur, je sais pas, ou plutôt statistiquement, ils n'étaient pas particulièrement plus mal faits que les autres. Donc il y a un problème réel, sans doute, en tout cas qu'Alain Fernex développe assez bien, qu'il a développé en cours ici en tout cas, sur la question des maquettes, des semaines de cours et de l'obligation de lecture. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Parce qu'après, j'aimerais aussi qu'on parle du coup. Après, une fois qu'on a dit ça, on passe effectivement au public.
On peut en dire un mot. Enfin, effectivement, c'est Alain Fernex qui est un spécialiste de ces sujets-là, qui a beaucoup apporté dans toute la première partie du bouquin qu'il a rédigé, montre bien ces questions-là. La théorie d'Alain Fernex, c'est que la grosse rupture qui a été introduite dans ce processus de fonctionnement des étudiants à l'université, c'est le LMD. Parce que le LMD a modifié très profondément les rythmes de fonctionnement de l'université et a contraint l'université à écarter... c'est assez monstrueux de dire ça, hein, à écarter les étudiants de leur capacité d'étude, en fait. C'est-à-dire que les étudiants n'ont plus le temps d'étudier. Et dans son laboratoire, il travaille beaucoup sur cette question du temps d'étude. Et il a fait plusieurs études et plusieurs enquêtes, notamment dans la région Rhône-Alpes, hein, plusieurs universités de la région Rhône-Alpes, et qui montrent que le temps consacré par les étudiants à l'étude se restreint année après année, et dans certaines disciplines même il tombe à zéro. Et le LMD a une responsabilité dans ce phénomène, parce que il a modifié de manière très très profonde le mode d'organisation des cursus à l'université, en réduisant en donnant des contraintes sur les calendriers de fonctionnement de l'université, et en augmentant aussi les charges d'enseignement reposant sur les étudiants, pas celles reposant sur les enseignants-chercheurs, hein, celles reposant sur les étudiants, et les charges d'enseignement suivies, en fait, hein, et le temps disponible pour l'étude finit par se restreindre. Et le temps disponible pour l'étude, c'est quoi? C'est le temps disponible pour venir en bibliothèque. C'est le temps disponible pour lire. Et le résultat, c'est que les étudiants ne lisent plus. Alors, il est trop... c'est pas la bonne explication de dire c'est parce qu'ils sont moins bien qu'avant. On pourrait dire ils sont moins bien qu'avant. Donc ils ne lisent plus. C'est pour ça qu'ils ne lisent plus, parce qu'ils sont moins bien. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est Peut-être qu'il y a de ça, je ne sais rien. Mais ce n'est pas ça la vraie explication d'après Alain Fernax. Voilà. La vraie explication tient au fait qu'on n'a plus à l'université les moyens de faire lire les étudiants. Voilà. Plus largement, de les faire étudier. De les faire étudier. Voilà. C'est grave comme constat, parce que qu'est-ce qu'on imagine comme avenir à l'université à partir de là ? Voilà. Ça vient se rajouter à tout ce que Florence a pu dire sur la question de l'évolution de la documentation, des évolutions sociales qui font que l'accès à l'écrit n'est plus le même qu'il y a 50 ans. Enfin bon, toutes ces questions, ces autres constats qu'on connaît bien qui viennent se rajouter en fait, à cette question de l'université.
Il y a quelques années, je pense en 2008 ou en 2009, 2008 peut-être, à la DIRBU, l'Assemblée des directeurs de bibliothèques universitaires, tu avais présenté un peu, pas dans un coin de porte, officiellement quand même à la tribune, mais la vision du SICD de Grenoble 2 orientée vers les publics. Mmh. En gros, c'était, et donc on était bien dans un temps bien antérieur à la question du 10 et 11 novembre, en tout cas, la volonté de tourner le, je sais pas si c'est le projet de la bibliothèque, mais en tout cas les orientations de la bibliothèque vers le public, qui a irrigué l'ensemble des équipes. Et donc, ce que j'aimerais que vous développiez, parce que là, en fait, quand même, pour le coup, une bonne partie de l'équipe est là, c'est comment vous avez mis ça en place, pour quelles raisons, et comment ça s'est fait, parce que chacun a vos degrés de responsabilité divers, vous l'avez porté, ce projet-là. Après, on pourra évoquer un peu plus longuement la bibliothèque comme lieu, et puis enfin, à quoi on va finir par servir quand même, nous, bibliothécaires.
Là, il y a un autre projet qu'on a porté parallèlement à celui-ci, sur les publics, c'est celui de l'évaluation, qui n'a pas été pour nous un outil technique qu'on met en place comme ça pour parce que les théories du management disent qu'il faut faire de l'évaluation. C'est parce qu'on a été ce projet sur l'évaluation, on a commencé à y réfléchir en 2005-2006 parce que pour nous il allait de pair avec la réflexion qu'on avait conduite depuis quelques années sur la mise au premier plan de la relation au public par rapport à la relation avec les collections. Et il nous semblait extrêmement important, notamment dans nos discussions avec la tutelle universitaire, de pouvoir avoir des éléments objectifs d'évaluation qui montraient dans quel sens travailler. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant tout à l'heure d'entendre Nadine nous parler de cette question de l'évaluation, qui n'est pas, pour encore une fois, un outil technique, en fait. Hein, même si, évidemment, derrière, pour le faire, il faut avoir des outils techniques. Le constat qu'on avait fait là, pour se lancer dans cette réflexion sur le public, en fait, il est antérieur à notre arrivée à tous les trois à la bibliothèque. Ce sont nos prédécesseurs qui avaient lancé cette réflexion dès les années 90, en fait. Hein, donc c'est assez ancien. Je pense quand même que c'était concomitant avec la réflexion qu'ils avaient lancée sur la reconstruction de la bibliothèque. On est dans une bibliothèque à Grenoble 2 et Grenoble 3. Hein, tu parles, soyons précis jusqu'au bout. On a la chance d'avoir deux universités à desservir, Grenoble 2 et Grenoble 3, qui sont des universités de lettres et sciences humaines. Et sciences humaines et sociales, je me suis fait reprendre l'autre jour par notre président qui m'a dit qu'il fallait maintenant dire lettres, sciences humaines et sociales. Ce bâtiment dans lequel nous sommes est un bâtiment qui datait des années 60 et qu'il a fallu reconstruire. Et au point de départ, d'ailleurs, il est intéressant, on en parlait ce matin, on recevait une des collègues de Lyon 2 qui venait visiter la bibliothèque, on a retracé avec eux l'histoire de cette reconstruction. C'est ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'au point de départ, c'est pas du tout ces réflexions qui étaient à l'œuvre. Au point de départ, c'est qu'on risquait de mettre le feu à la bibliothèque et que les publics handicapés moteurs ne pouvaient pas accéder à la bibliothèque. Donc il fallait corriger ces deux aspects, éviter de mettre le feu et puis permettre à tout le monde d'accéder au bâtiment. En clair, rendre le bâtiment conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité qui prévalait 30 ans après la construction du bâtiment. Et c'est parce qu'il a fallu travailler sur ces questions-là que nos prédécesseurs se sont dit « Travaillons en même temps sur autre chose. Travaillons sur autre chose. » Et déjà dans les années 90, hein, on pressentait que la question des collections dans les bibliothèques universitaires n'était plus la question première, pour toutes les raisons que Florence a commencé à esquisser tout à l'heure. Et c'est là qu'on s'est dit, la question première, c'est le public. Adaptons le bâtiment à ce public, aux besoins du public et à ce qu'il lui faut dans une bibliothèque universitaire. Voilà. Et c'est le vrai point de départ, il est là. Et le travail qu'on a fait, donc là, pour le coup, après notre arrivée à tous les trois dans la bibliothèque, ça a été de, non seulement de reconstruire le bâtiment, ça nous a pris un peu plus de 10 ans, mais aussi d'adapter notre structure de fonctionnement à cette exigence de mettre le public en avant par rapport aux collections. Alors, on pourrait le détailler, tout ça, mais ça prendrait peut-être beaucoup de temps. Ça veut dire avoir un organigramme adapté à ça, ça veut dire avoir un département du public. Aujourd'hui, ça existe dans toutes les bibliothèques, dans tous les SCD en France, hein, les départements du public. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, ça semble être une évidence. Et il y a 10 ans, ça ne l'était pas. Il y a 10 ans, 15 ans, l'évidence dans les bibliothèques universitaires, c'était les collections. C'était le poids des collections. La question du public était même pas seconde. C'est une question qui ne se posait pas. Et en revanche, aujourd'hui, des directeurs de SCD dans la salle qui pourraient le confirmer, dans tous les SCD en France, il y a, avec des appellations qui peuvent varier d'un endroit à un autre, mais quelque chose qui ressemble à un département du public. Les modèles qu'on a utilisés, ils sont bien connus, hein, on n'a rien inventé en la matière, hein, les bibliothèques universitaires, pas seulement américaines, hein, mais en Europe du Nord, connaissaient ça depuis déjà pas mal de temps. Depuis combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas depuis pas mal de temps. Voilà, donc c'est ce travail-là qui a été fait. Et finalement, la rédaction de ce bouquin, elle est venue conclure cette réflexion qu'on a conduite pendant une dizaine d'années, hein, sur ces sujets.
Peut-être qu'on pourrait compléter en disant simplement qu'on avait la chance d'avoir une bibliothèque où les fonds étaient riches. Donc en fait, on avait déjà quelque chose en main, des collections abondantes, des collections de qualité. Il y avait tout un passé de la bibliothèque universitaire. Et le constat, c'était que on n'était pas du tout certain que ces collections rencontraient leur public. Et on n'était pas du tout certain que les publics avaient la capacité, on était même sûr que les publics n'avaient pas la capacité à les utiliser pleinement comme ils auraient dû le faire. Le bâtiment bibliothèque en tant que tel, l'organisation de la bibliothèque ne favorisait en aucune façon cette rencontre entre des collections de qualité et un public qui était en attente de quelque chose. À l'époque, ils étaient encore censés effectivement avoir le temps de lire, avoir le temps de travailler. L'LMD n'était pas encore passé par là. Et pourtant, on était certain que il y avait un hiatus profond entre les deux. Et je crois que c'est ça fondamentalement qui a motivé la direction du SICD pour essayer de trouver des solutions pour faire autre chose, autrement, et positionner la problématique fondamentale des besoins du public et de l'adaptation à la fois des collections et des services offerts par la bibliothèque universitaire et offerts par le SICD à ces publics-là. Et on a commencé à parler de public au pluriel. On a commencé à parler de besoins au pluriel. À partir du moment où, effectivement, on s'est mis dans une autre situation, où on a adopté un autre angle de vue. Et ça a été le déclencheur, je pense, pour trouver les bonnes formes d'organisation et demander aux architectes chargés de retravailler sur le bâtiment lui-même de nous trouver les solutions pour pour que le bâtiment soit adapté à ces nouvelles formes de travail en bibliothèque, à ces nouvelles formes de travail des personnels de bibliothèque. C'était vraiment un tout, et c'était vraiment un gros projet pour le coup, qui était très, très, très englobant et qui concernait toutes les dimensions de l'activité, quoi, finalement. Et c'est pour ça que c'était un travail de longue haleine, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain.
Alors sur cette orientation, sur cette orientation générale autour des publics, vous avez tenté à retracer l'histoire, donc vous avez parlé. Il me semble qu'on pourrait avancer dans deux directions. La première, c'est effectivement la question de l'évaluation, c'est-à-dire en gros, comment est-ce que cette modification, comment est-ce que tout ça s'évalue. Donc ça, c'est ce que vous avez mis en place. Et la deuxième chose, c'est un sujet un peu particulier, mais tellement fondamental dans la bibliothèque, c'est le rôle des magasiniers, que vous développez longuement, et en particulier leur fonction qui change, et qui change fondamentalement, parce qu'ils ne sont plus là pour convoyer des collections qui, de plus en plus, sont en voie de dématérialisation, donc ils ne vont plus convoyer grand-chose. Commencez, Dandy.
Comme vous voulez.
Oui.
En fait, la question de l'évaluation, elle s'est posée à partir du moment où notre projet a pu être élaboré, formulé, explicité, développé, et où on a pu avoir une concrétisation de ce projet à l'issue d'un premier volant de travaux qui s'est développé entre 2002 et 2004. Là, en 2004, on s'est retrouvé avec un bâtiment qui n'était pas encore complètement celui qu'on souhaitait, pas encore dans toutes les formes, puisque une partie seulement avait pu être rénovée. Mais on voyait bien prendre corps la matérialisation de ce projet-là au travers de la mise en place de l'accueil du public dans différents endroits, selon des modalités différentes, au travers de la réorganisation des collections. Un gros, gros travail a été fait sur ces collections pour développer le libre accès et faire en sorte que ce libre accès soit plus au fait des besoins des publics qui venaient, au travers de la qualité aussi, la qualification des places de travail qu'on mettait à disposition, avec une grosse réflexion sur l'irrigation informatique, électrique, etc. Enfin, bref, ce travail-là, en 2004, il commençait à prendre une vraie consistance, quoi. Et par contre, on s'est aperçu assez vite, Frédéric l'a senti très très vite, que y avait un besoin de pouvoir juger du niveau atteint par rapport à ces travaux-là, et de pouvoir juger à un moment donné des inflexions, des correctifs qui infailliblement seraient à apporter. Pour ça, on a quand même un certain nombre de d'habitudes professionnelles et de compétences professionnelles. On sait observer les choses, mais les observations, souvent, on les mène. Je dis ce « on » en globant, là encore, parce que chacun dans son service avait plus ou moins l'habitude de voir, d'observer et de sentir un peu ce qui allait plus ou moins bien, et d'apporter en direct des correctifs, des petits palliatifs de détails, etc. Et en fait, il fallait vraiment passer à un stade supérieur. Ça suffisait plus. Et il ne suffisait plus que chacun se sente impliqué dans ces évolutions-là et dans la volonté d'être vraiment dans une relation très forte par rapport au public et à ses attentes. Il fallait que ça passe au niveau de l'établissement lui-même. Et nous ne disposions d'aucun moyen pour quantifier un peu ce qui se passait à la bibliothèque. Nous n'en avions aucun, sauf le SGBU, puisque, comme toutes les bibliothèques en France, depuis 1975, on remplissait le SGBU. Mais les conditions dans lesquelles on se servait de cette SGBU, ou plutôt on ne s'en servait pas, étaient quelque chose d'absolument révélateur sur la difficulté qui était celle des bibliothécaires à imaginer que des données statistiques pouvaient apporter quelque chose au fonctionnement dans le quotidien. Le SGBU, chacun le remplissait comme il pouvait. C'était pendant 2 mois l'horrible corvée de chacun à la bibliothèque. Et une fois que c'était rempli, une fois que c'était remonté au ministère, eh bien c'était archivé soigneusement par le secrétariat et nous n'en faisions strictement rien. Il y avait eu un temps phénoménal passé pour pouvoir collecter les données, pour pouvoir les faire remonter, et ça ne servait strictement à rien. Donc, autant dire que cet outil était complètement inefficace. Et nous étions convaincus que, comme notre projet n'était pas encore abouti, il allait falloir continuer à convaincre les uns et les autres que, oui, il y avait le numérique qui se développait, oui, il y avait Internet, mais que ce type de documentation n'était pas l'alpha et l'oméga des besoins du public étudiant, du public des enseignants-chercheurs, et qu'il fallait aller jusqu'au bout de ce projet qu'on avait commencé à mettre en œuvre. Et pour ça, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir des moyens de quantifier, d'analyser finalement les données, les données qu'on espérait recueillir, qu'on savait, on savait qu'on était capable, puisqu'on faisait le SGBU, on était capable de recueillir des données. Par contre, l'analyse, là, c'était autre chose. Et cette analyse, elle apparaissait absolument indispensable pour pouvoir, dans un premier temps, au niveau de l'équipe de la bibliothèque, savoir qui nous étions, ce que nous faisions, quels étaient nos publics, et vérifier que l'action que nous avions entamée allait dans la bonne direction. Si ça n'était pas le cas, eh bien, apporter les correctifs. Ça, c'était dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, avoir des éléments structurés, utilisables et révélateurs de toute cette activité qui jusqu'alors était complètement inconnue de nos universitaires et de nos universités, pour pouvoir discuter avec eux sur ce projet, comment, dans quel sens faut-il l'amener au bout et dans quel délai faut-il l'amener à terme et avec quels moyens et avec quels objectifs. Et c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans cette opération d'évaluation qui avait ce caractère un petit peu angoissant parce que en fait, il ne s'agissait pas d'évaluer un service après l'autre. Il s'agissait de pouvoir appréhender la réalité du service SICD dans son ensemble, de la bibliothèque universitaire dans son ensemble, et y compris de sa relation avec des bibliothèques de composantes. Et donc là, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et du coup, on a été obligé de s'arrêter sur le sujet. S'arrêter. On a continué à faire vivre la bibliothèque. On l'a ouverte tous les jours. On a fait fonctionner les services, etc. Mais en tant qu'équipe de direction, nous nous sommes arrêtés sur le sujet et nous avons défini quels étaient nos besoins et nous avons défini quels étaient l'état de nos forces et quels étaient les objectifs que nous voulions tracer pour ce projet d'évaluation. Voilà. Et à partir de là, bien, les choses se sont enclenchées. En 2006, on s'est mis à commencer à faire fonctionner un travail de réflexion sur ces questions d'évaluation, d'indicateurs, de statistiques, etc., à la fois sur la collecte, à la fois sur l'analyse et à la fois sur qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça, de quels outils on allait se doter pour pouvoir discuter. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est quand même relativement abouti et on est bientôt... On est à la veille de produire un rapport complet d'activité sur le SICD dans son ensemble. Mais bon, il a fallu toutes ces années parce que c'était un long travail et assez compliqué. Assez compliqué d'abord parce qu'il fallait convaincre les personnels que c'était utile et nécessaire. Et c'est en faisant qu'on a montré que c'était utile et nécessaire. Et aujourd'hui, plus personne dans la bibliothèque ne conteste ce travail. Et au contraire, certaines fois, ils nous disent... là-dessus, c'est on n'a pas assez et il faut vraiment qu'on travaille sur ce secteur-là. Voilà. Je m'arrête là parce qu'autrement, je vais prendre tout le temps.
La question des magazines.
Oui. D'une certaine façon, un peu une suite. Parce que ce sont des personnels qui sont précisément à la fois au cœur et souvent en statut...
Oui. Alors effectivement, ils ont été maintes et maintes fois au cœur de nos discussions et de nos réflexions, à la fois parce que de manière traditionnelle, c'était les personnels qui étaient le plus en contact avec les publics. Donc les questions d'accueil sur lesquelles on était en train de travailler reposaient quasiment au démarrage de notre projet intégralement sur leurs épaules, finalement. Et par ailleurs, leur métier était en évolution assez radicale par rapport au statut qu'ils définissent encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est une... ils sont inquiets véritablement aujourd'hui, ces magasiniers, par rapport à leur avenir. Parce que il y a de toute façon en toile de fond l'évolution des métiers de toutes les catégories de bibliothèques. Hein. Finalement, on réfléchit au métier de magasinier, mais on réfléchit aussi à l'évolution des métiers des catégories B et puis aussi au métier des catégories A. Donc il y a tout cet ensemble qui est dans une complémentarité autre sans doute à trouver. Et puis par ailleurs aussi la question des moniteurs étudiants, qui est une question que l'université pose de manière récurrente, comme étant une solution finalement peut-être assez pratique et à moindre coût, pouvant être utilisable pour remplacer peut-être progressivement les magasiniers sur les fonctions qui sont les leurs aujourd'hui. On rajoute à ça aussi un troisième élément qu'on a eu à vivre là ces tout derniers mois, avec l'automatisation des tâches de prêt et de retour. Hein, c'est quelque chose qui est en train de s'installer vraiment de manière quasi générale dans les bibliothèques universitaires. Et ça a été très mal vécu par notre équipe hein, quand on a installé des automates de prêt et de retour, des boîtes de retour automatiques ouvertes 24 heures sur 24, etc. Il y a eu tout de suite un très fort sentiment en fait de dépossession par rapport à des tâches qui étaient les leurs précédemment. Et de crainte d'être remplacé par les machines, en fait. Voilà. Donc on a accompagné vraiment tout ça en expliquant que bon, finalement, ça n'était pas les déposséder de leur métier, mais au contraire, redonner de la valeur ajoutée à leur métier en enlevant tout ce qui était tâches techniques de peu de valeur finalement, et au contraire en renforçant le temps disponible pour eux pour du véritable accueil, du véritable contact avec le public et du véritable accompagnement de ce public. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose. Bon, enfin, ils sont un petit peu plus rassurés qu'il y a encore un an par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup de questions effectivement qui demeurent avec le rôle que jouent les moniteurs étudiants. Voilà. Bon, ça c'est une solution que l'université a toute prête sous la main au cas où. avec laquelle, bien sûr, il faut qu'on discute. Hein. Donc, notre rôle et notre engagement et notre responsabilité par rapport à ça, c'est vraiment de faire gagner les magasiniers en compétences pour justifier complètement des fonctions qui sont les leurs et justifier d'un avenir à ce métier-là.
Ça veut dire que vous avez accompagné ce changement de formation, de comment ça s'est passé avec eux ?
Oui, alors on a fait effectivement une formation globale de l'ensemble du personnel à ce que c'était que l'accueil. Et du coup, à l'intérieur de cette formation, on a pris les équipes de manière séparée et complémentaire pour travailler ce que c'était que les tâches d'accueil avec chacune de ces équipes. Et il s'est avéré que les tâches d'accueil qui sont confiées aux magasiniers sont effectivement sans commune mesure avec ce qu'ils faisaient il y a encore 10 ou 15 ans. Hein. Donc là, ils sont vraiment aujourd'hui sur le terrain du renseignement bibliographique quand même assez poussé. Ils ont considérablement diversifié leur palette d'intervention parce qu'ils sont présents à la bibliothèque sur tout un tas de tâches qui étaient précédemment des tâches de catégorie B, notamment tout ce qui est catalogage, signalement des documents, etc. Et donc effectivement, oui, il y a eu à la fois une très grosse réflexion en interne sur l'évolution des métiers et effectivement un accompagnement en formation ensuite. Voilà, ce qui avait aussi l'intérêt de rendre visible cette action auprès de l'université. Mmh. En montrant voilà, quel était notre engagement et notre volonté en la matière.
C'est un cas de figure très intéressant, les magasiniers.
Oui.
Très très intéressant parce que le point de départ de leur identité professionnelle, c'est quand même, c'est pas vraiment le public, hein, ce sont les collections.
Oui.
D'ailleurs, ça s'appelle magasinier, c'est pas pour rien. Hein. Dans les magasins, il n'y a pas de public, il y a des collections. Oui. Donc leur... L'ancrage de leur identité professionnelle, historique, ce sont les collections. Et pendant des décennies, au 19e siècle, ça n'existait pas sous cette forme-là, les magasiniers. Et en tout cas, depuis que leur statut existe, hein, en gros depuis une soixantaine d'années, leur leur ancrage professionnel, c'était les collections, c'était le service des collections, c'était l'entretien des collections, tout tournait autour de ça. Alors évidemment, ils étaient en contact avec le public pour la partie circulation des collections, mais leur ancrage, c'était ça. Mmh. Et la question qui se pose aujourd'hui, pour eux, pour nous, hein, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire désormais dans les bibliothèques. Et effectivement, là, je crois qu'on peut en être convaincu, il n'y a d'avenir pour eux dans les bibliothèques que s'ils basculent des collections vers le public. S'ils restent sur les collections, c'est cuit. C'est cuit. Et à très court terme. À très court terme. Et en particulier parce que... Alors, en particulier à l'université. Dans les bibliothèques territoriales, c'est peut-être un peu différent. Mais à l'université, en particulier, pourquoi Florence l'a dit, il n'y a pas que l'affaire de l'automatisation des opérations. Ça, c'est un aspect des choses. Mais il y a aussi le fait que dans les universités aujourd'hui, les présidents ont sous la main un outil qu'ils aiment énormément qui s'appelle les contrats étudiants. Alors pourquoi est-ce que les présidents aiment ça de manière unanime? On prend n'importe quelle université, n'importe où en France, les présidents aiment beaucoup ça, pour des raisons budgétaires évidentes et pour des raisons politiques. Parce que pour un président, dire « je fais travailler les étudiants », ça a un poids politique considérable. Considérable. Et donc, les magasiniers à l'université, ils entrent en concurrence, en fait, avec ce type de phénomène. Donc on a vraiment intérêt à se poser cette question si on imagine que les magasiniers, et nous faisons partie de ceux qui imaginons que les magazines ont un avenir dans les bibliothèques universitaires, il faut se poser cette question-là, parce que si on les laisse dériver de manière naturelle, d'ici 5 ans, il n'y aura plus un seul magasinier dans les bibliothèques universitaires. 5 ans. Et donc là, la bascule, elle doit se faire impérativement de la question des collections vers la question du public. C'est en tout cas la conviction que nous avons. Alors, bascule, nuançons les choses quand même. Hein, les choses sont toujours plus compliquées que celles qu'on peut exposer dans un discours comme celui-ci. La partie collection, elle demeure quand même. Hein. Elle demeure notamment avec un phénomène que Florence a évoqué, qui est l'interaction avec l'évolution des catégories B. Et il y a tout un pan de l'activité des magasiniers, de notre point de vue, qui doit basculer aujourd'hui vers ce que faisaient autrefois les catégories B, en matière de signalement des collections et de d'affaires comme ça. Il devient infaisable aujourd'hui de continuer à confier des tâches de ce type-là à des catégories B. En revanche, pour les magasiniers, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça leur permet d'abord d'avoir une vraie évolution dans leur pratique professionnelle, de leur garder le contact avec les collections, et ça, c'est important. Et du coup, de tirer vers le haut l'ensemble des équipes des bibliothèques universitaires. Donc le cas de figure des magasiniers, c'est vraiment un cas de figure extrêmement intéressant.
Oui. Alors je voudrais aussi qu'on aborde, alors je ne sais pas qui va le faire, mais un de vous trois, la question de la bibliothèque comme lieu, parce que malgré tout, si les étudiants n'utilisent plus ou moins les collections, en tout cas, ils utilisent toujours la bibliothèque. Enfin, il ne me semble pas qu'elle soit complètement déserte. J'ai pas eu l'impression, non, quand j'y suis venu plusieurs fois. D'ailleurs, vous l'avez agrandi. C'est bien pour quelques raisons. Et donc, ce que vous avez développé dans cet ouvrage, je trouve, comment dire, vient bien d'ailleurs dans la place de l'ouvrage, hein, c'est-à-dire après les publics, après comment on évalue, comment on établit le projet. Qu'est-ce que cette bibliothèque comme lieu ? Florence, donc, non.
Alors, oui, Florence, mais je vais quand même introduire.
Mais d'abord, le chef veut dire quelque chose.
Oui, je veux dire quelque chose. Alors, quelque chose qu'on a raconté, d'ailleurs, dans le bouquin. C'est une histoire qu'on a vécue indirectement. C'est la position d'un président d'université venant de prendre la décision de reconstruire une bibliothèque universitaire. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est une affaire que je connais, parce que le président de question me l'a raconté, alors que je n'étais pas du tout à la bibliothèque universitaire à l'époque. À l'époque, j'étais directeur de Médiat, le centre de formation au métier du livre, et le président qui était en même temps le président de tutelle de Mediat m'avait raconté ça. Enfin, il me l'avait raconté de manière assez inquiète, d'ailleurs. Il venait de prendre la décision, ça se passait vers 95 ou 96, je ne me rappelle plus exactement l'année, de prendre la décision de reconstruire la bibliothèque universitaire. Et en prenant cette décision, il s'est dit « Oulala, j'ai fait une bêtise. Dans 10 ans, il n'y aura plus de bibliothèque universitaire. » Et j'engage mon université dans un chantier énorme qui ne va servir à rien. Parce que dans 10 ans, il n'y aura plus de bibliothèque universitaire, ça ne servira plus à rien, bibliothèque universitaire. Et il m'en avait parlé à ce moment-là, je lui avais dit, bon, si, je pense que c'était quand même une bonne décision. Je m'étais dit, c'est quand même... moi, je pensais à ma propre... Je me suis dit, bon sens, il pense que dans 10 ans, il n'y a plus de bibliothèque universitaire, qu'est-ce que je vais faire, moi? Y compris comme directeur de Mediat, hein. Je m'étais dit... C'est qu'est-ce qu'il a bien dans la tête pour aller dire que dans 10 ans, il n'y aurait plus de bibliothèque universitaire. Bon. La décision a été prise, la bibliothèque a été reconstruite, et un peu plus de 15 ans après, la bibliothèque...
Et nous sommes encore là.
...continue à exister, nous sommes encore là pour la faire marcher, et le mieux, c'est qu'il y a plein de public dans la bibliothèque. Oui. Voilà.
Alors, c'est une question...
Pourquoi
ça. Oui. Alors, s'il a pensé ça à cette époque-là, c'est parce que probablement il avait aussi une vision qui n'est plus celle qu'on peut avoir aujourd'hui de l'usage d'une bibliothèque universitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui vient dans une BU ne vient pas seulement pour des collections. Ça, c'est vraiment la brique de base quand on commence à réfléchir à la question du lieu. Si on regarde les enquêtes qui ont été menées là toutes ces dernières années dans les différents SCD en France, on repère assez vite et assez facilement vraiment des constantes dans ce que viennent chercher les étudiants dans leur BU. Et qu'est-ce qui arrive dans ces constantes? C'est le fait de venir travailler dans un lieu agréable, calme, propice à l'étude, à la concentration, à la réflexion, venir travailler en groupe. Venir rencontrer aussi des enseignants ou d'autres camarades, etc. Venir trouver d'autres types d'ouvertures que ce que peut proposer traditionnellement l'université, à savoir des expositions, des conférences, des animations culturelles, etc. Et nous-mêmes à Grenoble avons été les premiers surpris en 2005, donc ça remonte à... C'était notre première enquête, ça remonte déjà il y a quelques temps, de voir apparaître dans les rangs des attentes très fortes sur les animations culturelles. Je crois que ça venait au quatrième ou au rang, enfin sur 10 ou 11. Donc c'était tout à fait bien placé et on était vraiment les premiers surpris de constater ça. Voilà, donc la question pour nous n'est pas du tout de bannir le rôle des collections, hein, ça n'est pas du tout le propos ni l'intention, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre cette mission centrale et fondatrice et fondamentale de la bibliothèque et tout ce qui peut graviter autour de ça et qui fait que la bibliothèque est finalement ce troisième lieu que Mathilde Servet a très bien décrit. Et qui est vraiment une notion importante. C'est-à-dire qu'en fait, pour un étudiant, la bibliothèque, ça n'est pas un lieu de cours, ça n'est pas non plus le domicile. C'est un lieu intermédiaire et un peu hybride où on va pouvoir faire tout un tas de choses qui participent de la vie d'étudiant et du métier d'étudiant. Voilà. Il y a aussi derrière tout ça une forte notion d'acculturation à l'université. C'est quelque chose qui est important, ça, pour nos étudiants. Aucun autre lieu aujourd'hui sur le campus ne peut les aider finalement à trouver ce lieu où on va endosser une certaine normativité du métier d'étudiant. Dans les cours, dans les amphithéâtres, on est soumis un peu à l'anonymat. Voilà, on est un peu perdu. La relation avec l'enseignant, elle est quand même très distante. Dans les autres services universitaires, finalement, c'est une relation qui est très administrative et assez lointaine. Et la bibliothèque est pratiquement le seul lieu du campus où on va pouvoir finalement approcher ce que sont des normes, des systèmes de classification, des méthodes de travail, la notion de gérer son temps, gérer une recherche, comment est-ce qu'on se confronte à de la documentation, quel regard critique on peut exercer par rapport à tout ça. Et je pense que finalement, on a un formidable potentiel avec ces lieux de bibliothèque pour essayer de développer tous ces aspects. Qui sont vraiment articulés sur les aspects documentaires, bien sûr, mais qui vont aussi bien au-delà de ça.
Sur l'articulation sur les aspects documentaires, je crois qu'il ne faut vraiment pas la perdre de vue. Les enquêtes que nous avons menées cette année, après la réouverture de l'ensemble de la bibliothèque, Florence, tu pourrais nous en parler mieux que moi, dans le cadre de l'élargissement d'horaires, montrent que les étudiants... ont ce besoin de recourir à la documentation. Hein. C'est pas parce que on a mis l'accent sur tout l'accompagnement que doit offrir la bibliothèque à la vie de l'étudiant à l'université que cette dimension documentaire n'existe plus aujourd'hui. Elle continue d'exister, mais elle est aussi très largement complété par tout un tas d'autres besoins qu'ils peuvent effectivement assouvir en venant à la bibliothèque, à condition qu'on se soit donné les moyens.
Alors vous écrivez que la bibliothèque se doit aussi d'être le laboratoire, le terrain d'expérimentation de nouvelles formes d'écriture et de lecture. Mmh. Vous avez écrit ça?
Oui,
certainement. Vous pouvez développer un peu, c'est bien vous.
Oui, un laboratoire.
Parce que du coup, ça change aussi le rôle. C'est pas seulement le réceptacle, un lieu où on sent bien, où on puisse travailler sur ses documents, sur ceux de la bibliothèque ou je ne sais quoi, où on peut se rencontrer, où on peut draguer, où on peut dormir. C'est plus que ça. C'est un lieu d'expérimentation. Et je trouve que c'est aussi une façon un peu différente d'envisager la bibliothèque. Donc je voudrais que vous développiez un peu plus.
Oui.
Voilà.
Alors c'est dommage qu'Alain Fernex n'ait pas pu venir
aujourd'hui
parce qu'il l'aurait dit beaucoup mieux que moi. Ça. Et il nous a beaucoup accompagnés dans cette direction-là. Enfin, pour lui, la bibliothèque comme lieu de création du savoir, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental. Alors c'est ce que notamment Graham Bulpit a beaucoup défendu hein, dans son Learning Center londonien. C'est l'idée que la bibliothèque effectivement n'est pas seulement là pour réceptionner les savoirs des autres, mais que c'est aussi un lieu où on va générer ce savoir-là. Et pourquoi est-ce qu'on peut le générer ? C'est parce qu'on est vraiment le lieu par excellence de l'interaction entre les disciplines, donc où les différents savoirs vont pouvoir se rencontrer et se compléter, et de l'interaction aussi entre les publics de l'université, entre les étudiants, entre les enseignants, entre les étudiants et les enseignants, et où finalement on vient à la fois pour lire mais aussi pour générer ses propres travaux d'écriture et de pensée, et donc la bibliothèque est vraiment ce lieu-là de la synthèse en fait des pratiques et la rencontre des savoirs qui sont le socle de tout ça. Je sais pas si que...
Et vous écrivez aussi la bibliothèque est le lieu d'ancrage pour les étudiants à l'heure de la dématérialisation.
Ouais.
Et en fait, ça aussi, c'est une belle façon d'envisager cette bibliothèque qui n'est plus... Parce que quand même, il y a eu ces espèces d'inquiétudes au moment de l'arrivée du numérique il y a quelques années, hein, et où on allait tous disparaître. Enfin bon, c'est ce que disait votre ancien président. Et du coup, on voit bien que les fonctions... certes, elles changent, mais qu'elles, finalement, elles finissent aussi par se poser, d'une certaine façon. On voit mieux davantage, on voit mieux où on en est aujourd'hui et dans quelle direction on semble aller. En tout cas, l'idée d'expérimentation semble aussi, ce que vous décrivez là, vraiment porteur de sens pour la bibliothèque. Et pour les bibliothécaires, Frédéric, donc, quel est l'avenir pour les bibliothécaires? À quoi allons-nous servir?
Avant de parler de l'avenir des bibliothécaires, je voudrais donner un exemple qui illustre soit à contrario, soit pleinement, je ne sais pas exactement, ce qu'on vient de dire sur la bibliothèque comme lieu d'ancrage, à un moment où les ancres sont un peu levées de partout dans le monde universitaire ou de la documentation. J'ai eu une séance très très compliquée dans laquelle je rapportais devant le comité technique de l'université Stendhal, qui est une de nos deux universités de Desert, à propos du statut de la bibliothèque. Et il y a un membre du comité technique qui est un enseignant-chercheur qui m'a attaqué avec virulence sur le thème de la relation entre la bibliothèque universitaire et la recherche, et en concluant son intervention en me disant: en plus, chez vous, il y a des règles. Alors ça voulait dire, en fait, développer, en plus, chez vous, il y a des règles, c'est-à-dire que il faut emprunter les bouquins, il faut les rendre. Si on ne les rend pas, on a des lettres de rappel, etc. En plus, chez vous, il y a des règles. Eh bien oui. Oui, dans une bibliothèque, il y a des règles. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où il y a la police à tous les coins de couloir, c'est un endroit où on construit le savoir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que aujourd'hui, même les profs à l'université ont du mal à admettre cette idée que la bibliothèque a cette fonction-là. Et les bibliothécaires, eh bien, ils sont dans cette perspective-là. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de l'avenir des magasiniers, parlons plus largement de l'avenir des bibliothécaires. C'est un peu une banalité de le dire, enfin, surtout dans une école qui dont la mission principale est non seulement de les former, mais de réfléchir à ce que doit être leur avenir. La question, c'est toujours la même, hein, c'est-à-dire la question de la relation au public, l'avenir des bibliothécaires à l'université, hein, dans les bibliothèques. Ça fait toujours sourire nos collègues des bibliothèques territoriales quand on parle de ça, parce que c'est des réflexions qu'ils conduisent depuis plus longtemps qu'à l'université, pour des raisons qui sont qu'on connaît bien, en fait, hein. L'avenir de des bibliothèques, des bibliothécaires, mais l'avenir de la bibliothéconomie aussi, hein, doit modifier son point d'équilibre, en fait, hein, et aller vers cette réflexion sur à quoi je sers dans ma relation au public. La question des collections ne peut plus servir à ancrer suffisamment l'action professionnelle des bibliothécaires. Alors, en même temps, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dans les bibliothèques, il faut qu'il y ait des collections. S'il n'y a plus de collections dans les bibliothèques, ce ne sont plus des bibliothèques. C'est autre chose de tout à fait respectable. Ça peut être un bistrot, ça peut être une salle de théâtre, tout ce qu'on veut. Mais dans une bibliothèque, il faut qu'il y ait des collections. C'est impératif. Sous quelque forme que ce soit, des collections imprimées, les vieilles bibliothèques comme la nôtre ont des collections imprimées. Dans 3 siècles, elles en auront encore. Et dans les bibliothèques plus récentes, des collections sous d'autres formes, des collections numériques notamment. Mais il faut qu'il y ait les collections. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne doit plus s'occuper des collections. Non. Une bibliothèque, c'est au point de départ une collection documentaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'action professionnelle ne doit plus être principalement orienté sur les collections, mais principalement orienté sur le public, et donc notamment dans les bibliothèques universitaires, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis un petit moment.
Ce qui veut dire que, enfin, sans doute un peu de façon caricaturale ou rapide ou synthétique, je sais pas quoi, que la relation à la présidence de l'université, oui, à la tutelle universitaire, et oui, donc aux enseignants-chercheurs, puisque oui, tu les as cités, oui, elle passe obligatoirement par une reconnaissance du public,
oui,
et une reconnaissance des étudiants qui, de toute façon, oui, ne s'y trompent pas.
Ah, tout à fait. Absolument.
S'ils y viennent.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est quelque chose comme ça.
Tout à fait.
C'est le seul élément de discussion qu'on puisse avoir. Le seul élément tangible de notre discussion. Aujourd'hui, avec la LRU, avec les RCE, avec le rôle que jouent les présidents d'université, leur élément de réflexion, c'est d'abord, effectivement, quelle est la pratique, le besoin, la pratique réelle de cette communauté universitaire, et est-ce que cette pratique rencontre l'utilisation de la bibliothèque, hein, les moyens qu'il va accorder, le président, c'est bien au regard de ces éléments-là.
Bien sûr.
Il n'y a pratiquement pas d'autres variables pour juger effectivement des moyens qu'il va nous donner. Pratiquement pas d'autres.
Benoît et Christophe.
Moi j'avais une remarque et une question, c'est sur ce glissement à collection vers public. Il me semble qu'il y a un élément, de difficulté, c'est le fait que le public perçoive la bibliothèque universitaire comme un lieu, alors effectivement, pour lequel les collections sont forcément le point central, mais pour lequel la mise à disposition d'un certain nombre de ressources est quand même un élément important. Et notamment, pour ça, alors je reprendrai, puisqu'on était tout à l'heure dans les anecdotes, si je vais chez mes voisins de Lyon 1, voilà, juste à côté, et je l'ai testé, et que je leur demande s'ils savent comment est-ce qu'ils ont accès à telle ressource en microbiologie sur leur ordinateur, aucun ne me répond parce que la bibliothèque paye.
Oui, exact.
Et quand ils disent parce que c'est sur Internet.
Oui.
La bibliothèque a bien fait son travail, personne ne voit que la bibliothèque est dans le circuit. Et quand on leur demande combien ça coûte, ils ont une réponse qui est de l'ordre, un rapport de 100 par rapport au coût réel payé par la bibliothèque.
C'est exact.
Je pense que c'est une problématique qui est transposable. Alors ça, c'est du côté recherche, mais pour les étudiants, dans le sens où les travaux qu'on a menés du côté de l'observatoire à ANSI montrent que les étudiants voient la ressource documentaire de l'université au travers de l'EMT, pour les universités dans lesquelles l'UNT est fortement implantée. Et donc, que la ressource vienne de la BU soit copiée-collée par le prof pour être posée dans l'UNT ou pas, à la limite, ils ne voient pas la source première, ils voient uniquement ce qui leur est proposé via l'UNT, ce qui fait que leur perception de l'apport de la bibliothèque à leur métier d'étudiant, pour reprendre votre expression, est faible ou mal perçu au-delà du lieu qui, lui, est bien perçu, mais quand même qui ne l'a pas. Alors, comment est-ce que vous imaginez le rôle que peut, enfin, l'action que peuvent mener les BU par rapport à justement j'allais dire marketing, le fait d'expliquer à quoi elle sert, ce qui ne se voit pas forcément.
Vous parlez d'expliquer, on est effectivement après vraiment dans des questions de communication et de formation aussi. Alors ce phénomène, ça, Daniel Renou l'a très bien expliqué, il appelle ça la désintermédiation, je crois. Et c'est effectivement la rançon de notre succès d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire nous, c'est quand on reçoit des étudiants par exemple en formation, et on les reçoit de manière quasi systématique de la licence jusqu'au niveau doctorat, On leur explique ça. On leur explique que les ressources qu'ils trouvent via l'ENT, via le site web, etc., sont des ressources payantes qu'ils ne pourraient jamais se procurer par eux-mêmes à titre individuel. Et là, effectivement, ça leur ouvre à ces étudiants, alors là, un monde absolument insoupçonné. Là où c'est plus difficile à faire, c'est avec les enseignants, parce que pour le coup, les enseignants ne viennent pas aux formations, donc c'est plus difficile de les toucher pour leur expliquer. Mais là, il faut qu'on œuvre vraiment en termes de stratégie, de communication, d'information, de manière systématique, effectivement, pour que ces éléments-là soient beaucoup plus visibles.
Oui, c'est ça. Mais c'est y compris ce que nous avons fait. Vous êtes allé plusieurs fois dans les conseils, ouais, pour conseils scientifiques, qu'on s'est vu, pour présenter un certain... C'est chaque fois des interventions qui sont relativement pointues sur un point précis, mais ça donne l'occasion d'expliquer à la communauté universitaire de quelles ressources elle peut disposer, parce que nous avons cette action. Il y a cette dimension au niveau de la communication qui est quand même intéressante et qu'il faut qu'on valorise un maximum dans les universités. Et puis c'est ce travail sur l'évaluation également. Ça se rejoint. Quelque part, être capable de produire des documents dans lesquels on exprime quelle est la dépense documentaire, comment elle se structure, quels sont les services qui sont rendus et comment ils s'organisent, et de le mettre à la disposition de la communauté universitaire. Alors, tout n'est pas lu et tout le monde ne va pas lire, mais quelque part... Il faut qu'on commence à enclencher un processus de ce genre-là. Je dis enclencher parce que ce n'était pas vraiment notre pratique, et on n'arrête pas ces derniers temps de constater avec désespoir que nous savons faire les choses, mais nous ne savons pas communiquer. Nous n'avons pas pris forcément le temps pour cela, et puis nous souffrons d'un complexe de modestie qui est quand même assez faramineux dans la profession. Et c'est vrai qu'on en est arrivé au stade aujourd'hui où on se dit travailler sur cette dimension de l'évaluation, travailler sur notre relation au public en termes de communication, tout ça finalement ça doit converger vers une capacité à mettre en exergue ce que nous faisons. Mais c'est compliqué. Il y a plein de vecteurs. La difficulté, c'est de savoir utiliser les vecteurs et d'avoir le temps nécessaire, la ressource nécessaire pour pouvoir utiliser ces vecteurs-là. Et c'est pas simple.
Christophe.
Il y a une remarque et une question qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La remarque, c'est un peu pour nuancer peut-être sur la question de la prise en compte des lecteurs par rapport à la prise en compte des collections. C'est quand on a recommencé au niveau des pouvoirs publics à s'intéresser au BU avec le rapport Michel, dès le départ, la question qui est posée, c'est la question des places assises. Avant même la question des collections, je me souviens, ça commence très fort sur la section de la science humaine de Paris 7, qu'on compare à une rame de métro d'une seule voiture toutes les demi-heures, mais on la pose en termes de nombre de places assises ramenées au nombre de lecteurs, et pas du tout sur les collections. Et je me souviens, moi j'étais à la sous-direction pendant la période Renault, donc jusqu'en 1993, et on pestait parce que le seul indicateur bête et méchant qui intéressait le cabinet, c'était est-ce qu'on augmente le nombre de places assises. Qu'on augmente le nombre de mètres carrés n'avait d'intérêt que si on augmentait le nombre de places assises, et qu'on augmente le volume des collections était totalement secondaire. Alors c'était un indicateur stupide et brutal, comme tous les indicateurs, mais derrière, je pense qu'il y avait quand même déjà cette question de se dire il faut poser la question en termes de service et pas seulement en termes de collection. Donc je nuancerai un tout petit peu là-dessus. Je pense que c'est une préoccupation qui est plus ancienne. Simplement, on n'était pas outillé forcément à l'époque. Mais je veux dire, on sort pas de... comment dire, c'est pas un surgissement tout à fait récent de ne pas s'occuper que des collections, me semble-t-il. Et ma question, c'était sur les structures d'emploi, hein, puisque... On vient d'avoir un rapport de l'inspection qui très progressivement en long, en large, en travers. Vous êtes dans des établissements qui sont quand même passés aux compétences élargies maintenant depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a déjà une politique de transformation par rapport aux magasiniers? Est-ce que c'est un sujet qui se pose dans les comités techniques ou ailleurs, peut-être différemment dans vos deux universités d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors, pour ce qui est du personnel des bibliothèques, la question ne se pose que dans une des deux universités, puisqu'on est rattaché à une des deux universités seulement, donc il y a la globalité de la gestion. Cette question-là, pour l'instant, ne se pose pas vraiment s'agissant des bibliothèques. Ou alors, quand elle s'est posée, ça s'est posé de manière assez favorable sur des transformations de postes qu'on avait demandées. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'en est pas dans le stade où on pourrait se trouver en difficulté par rapport à ça. Il y a juste un point qui montre que l'évolution est en train de se faire, c'est que ça se fait, là je pense que c'est vrai partout désormais, j'ai plus besoin d'argumenter pour les promotions de grade, en particulier des conservateurs, que je n'avais besoin de le faire il y a 5 ans. C'est-à-dire que ces questions-là, il y a 5 ans, étaient traitées même au début de l'activité des CPE, dans l'indifférence de l'université. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout l'indifférence. C'est une attention très précise, et notamment pour les conservateurs. En revanche, c'est vrai qu'on a déjà observé autour de nous des transformations d'emplois de conservateurs en emplois de bibliothécaires.
Mais sur les magasiniers et les baies, justement, c'est moins spectaculaire financièrement pour l'université. Donc, du coup, on peut, entre guillemets, plus faire des choses intelligentes peut-être que sur les catégories A. Est-ce qu'il y a une volonté du SICD et ou de l'université de pousser dans un sens ou dans l'autre quand un magasinier part à la retraite ou,
Alors, ça se fait pas encore exactement de cette manière-là. Mais on va prendre un exemple qu'on a sous la main, qui est en train de se faire, la transformation d'un emploi de magasinier en emploi de catégorie B pour permettre une titularisation sauvadée. Voilà. Donc l'université est prête à entendre aujourd'hui ce type de discours qui était certainement beaucoup plus compliqué à tenir il y a 5 ans. Donc là, on est sur des questions qui peuvent être traitées de manière intelligente, comme tu le dis, par les universités. Je maintiens quand même qu'il y a une inquiétude à avoir sur la manière dont les universités aujourd'hui traitent la question des catégories A. Encore une fois, on a vu autour de nous ces deux derniers mois des transformations d'emplois vacants de conservateurs en emplois de bibliothécaires. C'est un phénomène qu'on a relevé il y a déjà quelques années dans les bibliothèques des collectivités territoriales. Et je pense que c'est un phénomène auquel on va assister dans les universités aujourd'hui. Et ça, c'est à mes yeux plus inquiétant quand même, parce que c'est une vision un peu courte du sujet. C'est une vision de type comptable et non pas de type... ce n'est pas une réflexion très approfondie sur les missions des uns et des autres. C'est une gestion comptable. Les présidents d'université aujourd'hui ont les yeux rivés sur le compteur de la masse salariale et tout ce qui peut leur donner... de la souplesse sur la masse salariale, ils disent oui sans trop réfléchir. Voilà. Alors un peu au-delà du devoir de réserve.
On est entre nous.
Oui, on est entre nous, oui. Heureusement.
Moi, je voudrais poser une question sur l'avenir des BU, mais bon, je l'ai posée avec plusieurs approches, ouais. Parce que je ne sais pas très bien comment la poser. Hier, on a parlé de la question de la prescription et de la façon dont les enseignants avaient peu ou peu abandonné ce rôle de prescription de lecture, oui. En particulier en premier cycle. On abordait ensuite, comme vous l'avez fait aujourd'hui, la question du temps de travail disponible sous l'angle aussi du LMD, du processus de Bologne. Jean-Yves Mollier disait que dans son université à Saint-Quentin, les semaines où il y a des cours sont passées de 30 à 24.
Mmh. Ouais, c'est
nécessairement
ça.
Ces semaines-là sont surpliquées que les étudiants n'ont pas le temps pour travailler pour eux. Troisième approche, un petit caillou, la question des learning centers et dont on essaye de les adapter ou adopter en France, et il me semble que ça résiste en raison de, donc mon quatrième caillou et qui va vous amener à comprendre ma question, est-ce que ces différents propos, objets, réflexions sur les temps de lecture, la prescription, le travail personnel ne sont pas liés assez étroitement à une conception anglo-saxonne de la pédagogie qui a toutes sortes d'avantages, mais qui est extrêmement difficile à adopter en France en raison des effectifs, de l'organisation, des temps de travail des enseignants-chercheurs, enfin de 200 ans de cours magistraux qu'on a dans les jambes. Et du coup, si on n'arrive pas à faire évoluer cette approche pédagogique, quel est l'avenir des bibliothèques ?
Ben oui, je crois que c'est toute la question. Et en tout cas, il y a une chose qui me paraît très très vraie, c'est que incontestablement, enfin, je pense que ça n'est pas contestable. Essayez de discuter dessus, mais je pense que les bibliothèques ont plus de facilité à trouver leur place dans le monde anglo-saxon, dans le monde de l'enseignement de type anglo-saxon, que dans le monde de type français ou latin, où effectivement on a, comme tu le dis, 200 ans de d'histoire du cours magistral, même un peu plus, hein, parce que même avant ces 200 ans-là, il y avait aussi des formes, encore que les jésuites avaient des formes d'enseignement au XVIIe siècle qui étaient fondées sur autre chose que le cours magistral. Mais c'est vrai que les bibliothèques sont probablement mieux adaptées, en tout cas dans la conception qu'on en a nous. Dans celles qu'en ont les enseignants-chercheurs, c'est peut-être autre chose, mais dans la conception que nous en avons, elles sont mieux adaptées à un mode d'enseignement de type anglo-saxon, c'est-à-dire non fondé sur le cours magistral, que ce qu'on a en France. Sur la question de la prescription, on vous donnera une réponse à la fin du mois de novembre, parce que on est en train de préparer une enquête auprès de notre public. Une enquête qu'on va passer en novembre, hein, c'est ça, donc dont on aura les résultats fin novembre ou début décembre, et c'est une des questions qu'on pose dans l'enquête. Est-ce que vous lisez les bouquins prescrits par les profs? Oui, non, de temps en temps, voilà. Ça nous intéresse de savoir quelle est aujourd'hui l'attitude des étudiants par rapport à la lecture prescrite. L'impression qu'on a, mais il faut qu'on creuse quand même la question, c'est que la force de la prescription n'est plus aussi évidente qu'il y a 15 ans. Et que aujourd'hui, les étudiants, pour des raisons qu'on comprend mal, mais on va essayer de creuser la question, semblent s'affranchir. Mais peut-être que notre enquête nous apportera une autre réponse. Hein. Donc, en fin novembre, on aura un élément par rapport à ça. Ce qu'on constate, c'est toujours en lien avec la prescription, ce qu'on constate quand même, et tout le monde le constate, c'est pas propre à notre bibliothèque, c'est que les étudiants empruntent beaucoup moins de livres imprimés qu'il y a 10 ans. Alors, on se rassure à bon compte en disant « mais c'est parce qu'il y a les ressources numériques ». Je ne sais pas. Moi, je vois que quand on va voir ce que font, quand on va en Allemagne, on voit que les étudiants allemands, ils empruntent toujours autant de livres imprimés. Et pourtant, ils ont au moins autant de documentation numérique que les nôtres d'étudiants. Donc je pense qu'on se rassure à bon compte en disant il y a les ressources numériques. Je pense que le problème est plus compliqué que ça. Et donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que la réponse à la prescription n'est pas la même que celle qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans ou 15 ans.
Tous les cas, enfin, le sentiment qu'on a, c'est que effectivement, il y a peut-être une baisse de l'autorité de la prescription, mais ça ne les encourage pas pour autant à lire des choses non prescrites. Et voilà, et c'est tout le problème aussi finalement. C'est tout le problème.
Alors, il y a un autre, toujours en lien avec cette question de la prescription et de ce qui en découle, il y a un phénomène qui est très connu de nos collègues des bibliothèques territoriales et qui est inconnu dans le monde universitaire, mais on va essayer de s'y intéresser. Alors, pas dans notre enquête de novembre, mais peut-être un peu après, c'est la question des non-lecteurs. Les non-lecteurs en bibliothèque publique, c'est un sujet extrêmement intéressant et qui est cerné depuis longtemps. Enfin, on a fait des tas d'études sur le sujet. À l'université, jamais. Jamais, parce que le principe à l'université, c'est que le non-lecteur, ça n'existe pas. Eh bien, si, le non-lecteur à l'université, aujourd'hui, ça existe. Ça existe. Je vais même loin en disant ça, je ne dis pas le non-fréquentant de la bibliothèque. Ça, c'est encore un autre problème. Le non-lecteur, l'un est englobé dans l'autre. Le non-fréquentant à la bibliothèque, il est éventuellement non-lecteur aussi. Mais je vais plus loin que le non-fréquentant. Le non-fréquentant, il peut être lecteur par ailleurs. Mais moi, ce que je dis, c'est que le non-lecteur à l'université, aujourd'hui, ça existe. Et c'est un phénomène qu'on connaît mal et sur lequel on aurait intérêt les uns et les autres à essayer de travailler. Je pense que c'est un sujet qui fait très peur à l'université, qui fait très peur en particulier aux enseignants-chercheurs qui font comme si ça n'existait pas, alors qu'en réalité, je pense que c'est un phénomène très, très important aujourd'hui. En tout cas, nous bibliothécaires, nous aurions vraiment intérêt à nous poser cette question-là et à essayer de comprendre ce qui se passe autour de ce phénomène.